Bonjour.
Enchantée.
Enchantée.
Merci d'accepter de répondre à nos questions.
Ah, mais c'est un plaisir.
Alors, je vais vous expliquer. J'ai 17 questions.
D'accord.
Ouais. On va peut-être mordre un petit peu. Mais voilà. Donc, c'est des questions qui vont parler d'un côté de votre œuvre, Tim Taran, et de l'autre, ben, plutôt de votre travail, de la manière dont vous
arrivez. Ok, très bien.
Voilà. Vous avez une préférence pour commencer par l'un ou par l'autre?
Bah, peut-être la logique voudrait qu'on se focalise sur Tim Taran d'abord et ensuite sur le processus de travail.
Très bien. Du coup, pour Tim Taran, quelles sont vos sources d'inspiration?
J'en ai plusieurs. La première, c'est les grands classiques du shonen, notamment Dragon Ball, One Piece, Naruto, avec des mondes imaginaires où on parle de se surpasser pour atteindre ses objectifs. J'ai des références franco-belges aussi, puisque je suis français, donc j'ai grandi avec Astérix, avec les œuvres de Franquin qui m'inspirent pas mal aussi, avec Gottlieb aussi, qui est un dessinateur de génie, les jeux vidéo. Donc, je suis un enfant de Nintendo, très grand fan de Zelda notamment. Et puis, pour compléter le tout, les influences viennent aussi de la vie de tous les jours, de mon propre vécu, que j'essaye de romancer un petit peu, entre guillemets, à travers mes personnages, et de l'histoire de l'humanité en général. Voilà. Les vieilles civilisations, si on regarde Tim Taran, il y a beaucoup de choses qui sont basées justement sur des civilisations ayant existé, etc., notamment les Égyptiens avec les scribes. Voilà, les Tinters sont l'équivalent des scribes.
D'accord. Alors, du coup, on va rebondir. Dans Tintaren, justement, on retrouve beaucoup d'inspiration de One Piece, notamment dans le rythme et le découpage. On arrive, ça se bagarre, ça bouge beaucoup. Puis bon, on soulève des questions et après, on part. Comme dans. Voilà. C'est voulu ou
S'il y a le mot run, justement, dans le titre, c'est parce que ça va. C'est une cavale. C'est en tout cas au début de l'histoire, étant donné que le personnage principal, Artie, se met dans la mouise dès le premier chapitre en se retournant contre son patron, il va être obligé de cavaler, rejeté de son village, et c'est un road trip un peu farfelu. Donc effectivement, One Piece à ce niveau-là est plutôt un bon modèle. Là, j'ai pas envie de m'ennuyer déjà quand je dessine, et puis j'ai envie de voyager dans mon propre monde, donc ça doit aller vite.
D'accord. Du coup, dans ta série, tu véhicules aussi beaucoup de messages forts. Est-ce que ça vient au fil de l'écriture ou est-ce que c'est prévu depuis longtemps et...
Alors, il y a deux couches d'écriture. Il y a la couche générale, on va dire, celle qui est vraiment faite en amont, quand j'ai préparé le projet, les thèmes que j'ai voulu aborder. En numéro un, la liberté, vraiment le thème principal qu'on doit retenir, c'est ça. Mais aussi la transmission, le fait d'accomplir ses rêves, de trouver sa place dans le monde, etc., de ne pas subir l'oppression. Mais après, effectivement, il y a une deuxième couche d'écriture qui, là, vient au fil des tomes, qui est beaucoup plus précise, page par page, dialogue par dialogue. Et là, j'aime me laisser surprendre par les personnages, des personnages qui apparaissent et qui vont, par eux-mêmes, apporter d'autres thématiques plus précises. Parce qu'évidemment, on ne peut pas penser à tout dès la création du projet. Donc voilà, il y a deux aspects d'écriture.
D'accord. Et du coup, l'échange avec les fans, ça apporte aussi, ça nourrit l'histoire.
Oui, complètement. Bah oui, si on fait une œuvre, qu'elle soit littéraire ou musicale ou cinématographique, c'est vraiment pour la partager avec d'autres gens. Donc les réactions du public sont vraiment importantes, hein, au final. C'est la finalité, c'est que les livres arrivent dans la main de parfaits inconnus et les fassent réagir.
Du coup, est-ce que vous avez déjà une idée de la fin, dans longtemps, du manga?
Je l'ai établi depuis le début, la fin. Je sais pourquoi je fais cette histoire, quel but atteindre. J'ai la scène précise dans ma tête et sur le papier, je l'ai couché aussi. Voilà, je sais où aller. Dans combien de temps? C'est ça la question. Voilà, ça, je ne peux pas vous dire pour l'instant.
Non, on va passer plus à la question de travail. Justement, combien de temps prend la réalisation d'un chapitre, voire d'un tome?
Un chapitre, j'essaie de mettre 2 semaines pour le dessiner. Disons qu'avant, je fais le storyboard du tome complet, c'est-à-dire l'écriture et le croquis de chaque page, voilà, avec le placement des bulles, etc. Ça me prend un mois à peu près, un mois assez intensif de création. Je soumets ça à mon éditeur. Une fois que c'est validé, je pars dans du dessin, des planches, vraiment. Et là, j'essaie d'en faire 2 par jour. Donc, 10 planches par semaine minimum. Et à ce rythme-là, en 6 mois, le livre est fait.
D'accord. Et quels sont les points qui te posent le plus de difficultés lors de l'élaboration justement du manga?
Bah déjà, rester cohérent par rapport aux pistes qu'on a lancées avant. Ne pas, parce que quand on a trop la tête dans le guidon, des fois, on peut oublier des choses. Donc l'éditeur aide aussi, le dialogue avec l'éditeur aide beaucoup à recadrer les choses. Après, la principale difficulté sera peut-être de trouver les bons dialogues. Des fois, c'est pas évident. Parce qu'en fait, des fois, j'ai des idées, je sais ce que je voudrais exprimer, mais l'agencement des mots n'arrive pas forcément. Donc voilà, ça fait chauffer la cervelle. Des fois, c'est pas évident, mais une fois que ce travail est fait, après, globalement, ça va tout seul.
D'accord. Du coup, c'est très bien qu'on parle du travail avec l'éditeur. Dans les mangas japonais, on voit souvent que les auteurs parlent beaucoup de leurs éditeurs. Est-ce que la relation avec un éditeur français est aussi fusionnelle?
Ah, je pense pas. Après, chaque cas est différent. Vraiment, la relation auteur-éditeur, surtout en France, c'est toujours très singulier, quoi. Je peux pas dire que mon cas est le même que celui de mes collègues. Moi, en l'occurrence, j'ai la chance de m'entendre vraiment, vraiment bien avec mon éditeur. On se parle pas tous les jours, mais presque, par Internet ou quoi. La moindre question, il peut me répondre à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et donc, mais c'est pas aussi fusionnel, c'est pas au point. Disons que les Japonais, en fait, par exemple, l'éditeur, il vient chercher les planches à domicile chaque semaine. Il se rencontre physiquement régulièrement. Nous, on se rencontre physiquement, mais plus épisodiquement, par exemple, pour le rendu des planches, pour une réunion sur tel ou tel sujet. Mais c'est quand même pas aussi fusionnel. Mais je suis très très content de la relation que j'ai avec mon éditeur tout de même.
Qu'est-ce qui, pour vous, représenterait la consécration de votre travail sur Tinta?
La consécration, déjà, le fait que ça existe, c'est une première consécration, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un manga un peu particulier, au final. Mon parti pris, c'était de faire un manga français, avec ce que je suis, avec les codes que le Japon nous a envoyés, la structure narrative, le format de 100 pages noir et blanc, mais déjà, ça se lit de gauche à droite. Et puis, on voit que c'est français. Le graphisme aussi, il joue peut-être. Donc déjà, le fait d'avoir réussi à faire exister ça en librairie, c'est une première consécration. Après, tout ce qui viendra derrière, ce sera du plus. Moi, j'essaie d'être concentré sur ma série. La consécration, c'est à chaque fois que le livre sort et que l'histoire grandisse.
Ouais. C'est parfait. On va pouvoir revenir sur la question suivante. Du coup... Comment on devient mangaka français, mangaka professionnel français?
Pour se professionnaliser, c'est tout bête, il faut signer un contrat éditorial. Je pense qu'à partir de là, on peut dire qu'on est professionnel puisqu'on est payé pour faire nos pages. Comment j'ai procédé? J'ai envoyé un dossier éditorial à Glénat. C'était en version mail, en fait, c'est un dossier. J'ai d'abord élaboré en papier, j'ai scanné toutes les pages, les présentations des personnages, etc. J'ai bien remis en forme sur Photoshop. Et puis j'ai envoyé ça à Glénat et ils m'ont répondu le lendemain. Et de fil en aiguille, avec des coups de téléphone, des échanges de mails, les conseils qu'ils m'ont donnés, les planches que j'ai refait, on a abouti à un dossier suffisamment carré pour être présenté en comité éditorial. Ça a été validé par les décideurs, je ne sais pas qui c'est, mais voilà, les grandes pontes de Glénat. Et puis, ils m'ont envoyé un contrat, je l'ai signé, voilà, je suis devenu professionnel. À partir de là, il fallait rendre tant de planches à telle date, tout simplement.
D'accord. Et justement, pourquoi Glénat?
Moi, je suis quelqu'un de très simple. Quand j'ai une idée fixe en tête, je ne change pas d'idée. Voilà, Glénat, c'est Dragon Ball, c'est One Piece, c'est les gros shonen qui m'ont fait rêver, qui me font toujours rêver. En plus, historiquement, c'est ceux qui ont importé le manga en France. Donc c'était mon éditeur de rêve et celui qui collait le mieux, je pense, à ma personnalité. Et ça, c'est très important de trouver un éditeur, de par ses publications, qui colle à votre personnalité, à ce que vous produisez. Donc j'ai essayé Glénat et c'était rien d'autre pour moi.
D'accord, très bien. Et du coup, pourquoi le manga et pas la BD franco-belge?
Encore une fois, parce que c'est ma personnalité, étant né dans les années 80, fin des années 80, j'ai grandi, du coup, forcément avec les mangas, les jeux vidéo, tout ce que le Japon nous a envoyé, tout ce qui m'a fait rêver. En plus, les mangas, je suis fan de noir et blanc, du trait à la plume, c'est un outil vraiment extraordinaire, je trouve, je m'en lasse jamais. C'est 200 pages, ce qui nous permet quand même de développer des choses hyper intéressantes. C'est un rythme, comme on le disait, un rythme assez... On peut imposer un rythme assez soutenu de par les chapitres. Donc 9 chapitres, 8 ou 9 chapitres par livre, ça fait 8 ou 9 cliffhangers, c'est-à-dire fin de chapitre qui donne envie absolument de découvrir la suite. Ce qui fait que c'est... Il y a un rythme idéal qu'on ne retrouverait pas dans le franco-belge. Puis c'est moins cher, l'objet est super cool, donc voilà.
Du coup, qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans la... Est-ce qu'il y a des choses qui vous attirent particulièrement dans la culture japonaise ?
Bah, le manga. Il y a plein de choses qui m'attirent dans la culture japonaise. J'ai eu la chance d'aller au Japon une fois en tant que touriste il y a quelques années. J'ai trouvé que c'est un pays magnifique, propre, où les gens sont polis et respectueux, où on se sent à l'aise, en tant que touriste en tout cas. Et bah j'aime vraiment bien leur façon de... Le sens du détail, peut-être, je sais pas. C'est ce mélange de tradition et de modernité. Après, je n'y habiterai pas. Hein. Vraiment, je préfère quand même être chez moi tranquillement. Mais c'est un pays magnifique qui m'inspire beaucoup. Mais surtout par le manga, les jeux vidéo, encore une fois.
Ok, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal.
D'accord. On est presque à la fin de l'interview déjà.
D'accord.
Du coup, là, c'est plus sur votre manière de travailler. Vous travaillez à la main ou à l'ordinateur ?
Tout à la main.
Tout à la main.
Zéro ordi.
D'accord. Ensuite, est-ce que vous pouvez nous donner votre top 5 de manga ou d'auteurs japonais ?
Bah, moi, le plus mythique pour moi, c'est Akira Toriyama. Sans originalité. Après, je dirais Oda. Même si objectivement Oda a fait des choses plus dingues que Toriyama, mais comme il est arrivé après et que c'est Toriyama qui a posé les bases, voilà. Après, je suis pas énormément connaisseur. Encore une fois, ça peut paraître paradoxal, mais je lis pas beaucoup parce que j'ai de moins en moins le temps. Kishimoto a fait quelque chose de merveilleux avec Naruto, ça m'a beaucoup fait rêver. Après, ça s'est un petit peu cassé la figure, je trouve. Rumiko Takahashi avec Ranma 1/2, c'est pareil, c'est le type d'œuvre complètement intemporelle. En plus, le fait que ce soit une femme qui réussit à faire un shonen pur et dur au final, je trouve que c'est hyper inspirant. Le dessin est très pur. Et puis, en cinquième, je sais pas, je dirais... manga japonais, hein, vous dites ?
Pas forcément.
Ah, je dirais Tony Valente pour ce qu'il arrive à faire en France. Vraiment bravo à lui, quoi. Et ben, mais après, il n'y a pas d'ordre ni rien. Il y a juste Toriyama en haut et c'est tout.
Quatre ex aequo.
Voilà, ouais.
D'accord. Du coup, ben, il y a de plus en plus de devenir mangaka. Finalement, c'est un peu un rêve pour beaucoup de jeunes.
Complètement.
Est-ce que vous auriez des conseils à donner à la jeune génération ?
Bien sûr, j'en ai plein à donner. Après, je ne suis pas non plus... On les prend, on en fait ce qu'on veut, des conseils. Voilà, mon parcours m'a appris qu'il faut... Il faut aimer dessiner, vraiment. Aimer passer son temps devant des feuilles, remplir des feuilles, parce que c'est quand même des volumes de dessins, on s'en rend pas compte, mais c'est des volumes de papier, de dessins, de planches qui sont très très importants. Et surtout, il faut apprendre à bien écrire. En tout cas, si on veut être un auteur complet, si on veut juste être dessinateur ou juste être scénariste, c'est différent. Mais si on veut faire son propre truc, son propre petit monde, il faut apprendre à être efficace dans le registre qu'on a décidé. J'ai décidé d'être dans le shonen. Quels sont les codes du shonen ? Comment s'articule ce genre d'histoire ? Comment trouver des thématiques intéressantes ? Voilà, c'est très très... Après, c'est presque comme faire une rédaction. On fait un plan, on ordonne ses idées. Ne pas avoir peur de jeter, vraiment de jeter. Tout ce qu'on fait n'est pas génial. Il faut rester humble. Et il faut ensuite être capable, une fois qu'on a un éditeur, de dialoguer, d'accepter le dialogue avec lui et d'être capable de rebondir par rapport à leurs remarques pour refournir quelque chose de meilleur et de publiable. Donc ça demande de l'humilité et de la passion en permanence. Mais au-delà de tout, il faut s'amuser, vraiment.
D'accord. Du coup, est-ce que vous avez quelque chose à dire à vos fans ? Ce serait bien.
Eh ben, je suis très très heureux de les voir avec des Tintaren entre les mains, de les rencontrer en dédicace, des messages que je reçois régulièrement par Internet. Et je leur dis merci de soutenir cette nouvelle aventure. Je vous prépare plein de surprises. Donc, je vous dis à très bientôt pour la suite.
Merci beaucoup.
Je vous en prie. Merci à vous.